Chapitre 1. Le choix de Cérille. Dans la chambre somptueusement aménagée, l'air était étouffant et saturé de fumée. Cérille en avait des étourdissements, et son estomac protestait à l'oscillation constante du plancher. Toutes ses articulations étaient douloureuses. Elle n'avait jamais eu le pied marin, pas même petite fille. Et les années passées au palais du gouverneur n'avait pas contribué à améliorer sa résistance. Elle aurait préféré embarquer sur un vaisseau plus petit, qui aurait mieux tenu la mer. Le gouverneur avait exigé pour lui et sa cour un navire immense à panse pleine. Le retard pris au départ était en partie dû à l'aménagement du bateau en appartement spacieux. Cérille avait entendu les charpentiers chargés du travail discuter du lest et de la stabilité. Alors, elle n'avait pas compris leurs inquiétudes, mais aujourd'hui, elle devinait que le roulis permanent du navire était le résultat de l'obstination capricieuse de Cosgo. Pourtant, elle se répéta une fois encore que chaque embardée, aussi pénible qu'elle fût, la rapprochait de Terrilleville. Il était fâcheux de se rappeler qu'elle avait attendu ce voyage avec tant d'impatience. Elle avait fait et refait ses malles, choisissant des vêtements, les écartant, se ravisant. Elle ne voulait pas paraître aguicheuse, ni mal fagotée, ni jeune, ni vieille. Elle avait longuement hésité pour choisir les toilettes qui lui donneraient l'air d'une femme cultivée et séduisante. Elle s'était décidée pour des robes simples, de coupe sobre, mais délicatement brodées de ses propres mains. Elle n'avait pas de bijoux. Il était d'usage qu'une compagne de cœur ne possède et ne porte que les bijoux donnés par le gouverneur. Le vieux gouverneur avait toujours préféré lui offrir des livres et des manuscrits. Quant à Cosgo, il ne lui avait jamais fait de cadeau, alors qu'il couvrait de joyaux les compagnes qu'il s'était choisies, à croire qu'elles étaient des gâteaux qu'il fallait saupoudrer de sucre étincelant. Elle tâcha de ne pas s'inquiéter de son absence d'ornement. Elle ne se rendait pas à Terrilleville pour impressionner les marchands avec ses bijoux. Elle y allait pour voir, enfin, le pays et le peuple qu'elle avait étudié durant une grande partie de sa vie. Elle n'avait pas éprouvé pareille impatience depuis que le vieux gouverneur l'avait remarquée et invitée à devenir sa compagne. Elle priait pour que cette visite à Terrilleville prélude de même à une nouvelle vie. Pour l'heure, il était difficile de se raccrocher à ses rêves. Elle n'avait jamais vécu de façon aussi sordide et indigne. À Jamelia, elle était en mesure de s'isoler des pratiques les plus dépravées de la cour. Lorsque le jeune gouverneur avait commencé à laisser les fêtes dégénérer en orgies, elle avait simplement cessé d'y assister. À bord du navire, elle n'avait aucun moyen de se soustraire à ses excès. Si elle voulait manger, elle devait prendre ses repas avec le gouverneur. Quitter la chambre de Cosgo, se promener sur le pont pour prendre l'air, à supposer qu'elle y soit autorisée, c'était s'attirer les grossièretés de l'équipage chalcédien. Elle n'en tirait donc aucun réconfort. Le gouverneur et la compagne Keki étaient étalés sur le grand divan, quasiment hébétés par la fumée des herbes à plaisir. Keki avait dit en geignant que fumer était le seul moyen pour elle d'oublier ses nausées, et elle se plaignait haut et fort de n'avoir jamais autant souffert du mal de mer. Cérille avait trop de tact pour lui demander si elle n'était pas enceinte. Il était déjà arrivé qu'un gouverneur fécondât l'une de ses compagnes de cœur, mais le fait était considéré comme du dernier mauvais goût. Les fruits de ses amours étaient confiés dès leur naissance aux serviteurs de Sa pour être éduqués à la prêtrise. Ils ignoraient leur origine. Le gouverneur ne pouvait concevoir un héritier qu'avec son épouse légitime. Cosgo n'avait pas encore pris femme. Cérille doutait qu'il se marie jamais, à moins qu'il n'y soit forcé par ses nobles. S'il vivait jusque-là. Elle lui jeta un coup d'œil. Il était vautré sur Keki, le souffle rauque. Une autre compagne, elle aussi en état de stupeur, se prélassait à ses pieds, la tête rejetée en arrière, ses cheveux noirs épars sur les coussins. Ses yeux bridés étaient révulsés et ses doigts agités de spasmes. Cérille en avait le cœur soulevé. Jusqu'ici, le voyage n'avait été qu'une suite de fêtes et de divertissements, entrecoupé de périodes de nausées et de stupeur induites par l'excès de vin et de soporifiques. Alors qu'Osgo réclamait ses guérisseurs qui lui prescrivaient d'autres drogues, jusqu'à ce qu'il se sente suffisamment d'aplomb pour se livrer de nouveau à ses plaisirs. Les nobles de sa cour étaient aussi dépravés que lui, à l'exception de quelques-uns qui prétextaient souvent de leur mal de mer pour rester dans leur cabine. Plusieurs nobles chalcédiens étaient du voyage. Leur navire, battant pavillon du gouverneur, naviguait de conserve. Et ils se joignaient fréquemment à Kosgo pour le dîner. Les femmes qu'ils amenaient avec eux ressemblaient à de dangereux animaux familiers rivalisant pour attirer l'attention de ceux qu'elles estimaient les plus puissants. Ceri était horrifié. Les aspects les plus terrifiants de ces dîners étaient les discussions politiques qui leur succédaient. Les nobles chalcédiens persuadaient Kosgo de faire de Terrilleville un exemple, de ne tolérer de la part des marchands aucun propos rebelle, de se montrer ferme et de les écraser. Ils faisaient monter dans l'esprit du gouverneur une fureur et une suffisance que Ceri jugeait injustifiées. Elle avait renoncé à faire entendre sa voix. Les chalcédiens la réduisaient au silence en riant et en se gaussant d'elle. La veille au soir, Kosgo lui avait intimé l'ordre de se taire ainsi qu'il convenait à une femme de son espèce. En repensant à cette humiliation publique, elle sentait renaître sa colère. Le commandant chalcédien, s'il acceptait les vins fins que lui offrait le gouverneur, faisait fi de sa compagnie. Il arguait de ses responsabilités de capitaine, mais Ceri lisait dans ses yeux un mépris voilé. Plus Kosgo s'évertuait à l'impressionner, plus l'autre le dédaignait. Les tentatives du gouverneur pour singer l'arrogance et l'attitude agressive des chalcédiens donnaient un pitoyable spectacle. Ceri souffrait de voir des compagnes comme Keki l'encourager dans cette voie, comme si l'arrogance juvénile était une preuve de virilité. Kosgo prenait ombrage de tout ce qui contrariait un tant soit peu ses ordres. Il se comportait en enfant gâté. Il n'était jamais content. Il avait emmené avec lui des jongleurs et des musiciens, mais le charme de leurs numéros s'était éventé. L'ennui le rongeait. La moindre contestation le mettait en rage, il jurait et tapait du pied. Ceri soupira. Elle arpenta la cabine, s'arrêta pour jouer avec les franges de la nappe brodée. D'un geste là, elle déplaça des plats poisseux qui encombraient la table. Elle s'assit et attendit. Elle brûlait de retrouver le petit réduit qui lui servait de cabine. Mais comme Kosgo l'avait convoqué sous prétexte de lui demander conseil, elle ne pouvait s'en aller sans qu'il l'ait congédié. Si elle le réveillait, il lui refuserait certainement son autorisation. Elle avait bien tenté de le dissuader d'entreprendre ce voyage. Il l'avait soupçonné de vouloir voyager seule. C'était vrai. Elle aurait grandement préféré se rendre seule à Terrilleville, dotée des pleins pouvoirs afin de prendre des décisions concernant un pays qu'elle connaissait beaucoup mieux que lui. Pourtant, il était trop jaloux de sa propre autorité pour accepter. Lui, gouverneur souverain, débarquerait à Terrilleville dans toute sa puissance, dans toute sa pompe. Il materait les habitants, il mettrait les marchands au pas, il leur rappellerait qu'il les gouvernait tous par la grâce de ça. Il n'avait aucun droit de contester. Convaincue que le conseil des nobles détournerait de ses projets, elle avait été stupéfiée quand ses membres ainsi que les alliés chalcédiens l'avaient encouragée. Il y avait eu maintes nuits de beuverie en leur compagnie avant que commencent les préparatifs du voyage. Elle avait été témoin de leurs fanfaronnades et de leurs promesses. Ils le soutiendraient. Il devait montrer à ses parvenus de Terrilleville qui était le chef. Ses amis chalcédiens l'épauleraient. Qu'y avait-il à craindre de ces charognes de rebelles? S'ils osaient lever la main sur leur chef légitime, le duc Yadfine et ses mercenaires leur donneraient une bonne raison d'appeler leur pays les rivages maudits. Ceri secoua la tête en y repensant. Comment Kosgo ne voyait-il pas qu'il n'était qu'un appât dans le piège tendu par les chalcédiens? Si ces derniers incitaient les premiers marchands à tuer le gouverneur, ils auraient beau jeu alors de piller et de détruire Terrilleville. Le navire ballottant transportait, outre le gouverneur, quelques compagnes, un train complet de serviteurs et si noble que Kosgo avait désigné pour le servir avec leur entourage plus modeste. Un vaisseau de moindre envergure, chargé de fils de la noblesse, naviguait de conserve. Le gouverneur les avait attirés dans l'aventure en leur faisant miroiter l'octroi de terre à Terrilleville si leur famille participait financièrement à l'expédition. Séry avait protesté en vain. Arriver avec ses colons en puissance, c'était insulter les marchands. C'était la preuve flagrante que le gouverneur n'avait jamais pris au sérieux leurs doléances concernant les nouveaux marchands. Kosgo avait ignoré ces protestations. Pour comble, sept grandes galères, bien armées et pourvues de mercenaires chalcédiens, s'alignaient devant les navires ou les flanquaient. Ceux-ci prétendaient faire escorte aux navires du gouverneur dans les eaux de la passe intérieure infestée de pirates. Mais quand on se fut mis en route, Séry découvrit qu'il fournissait au gouverneur une démonstration supplémentaire de sa puissance. Ils avaient l'intention d'opérer des incursions et de piller toutes les colonies pirates qu'ils découvriraient au cours de leur voyage vers le nord. Le butin et les esclaves, ils les emporteraient en Chalcède sur le navire des jeunes nobles pour compenser les frais de la mission diplomatique. Les fils de famille participeraient au coup de main afin de mériter les faveurs qu'on leur accordait. Le gouverneur était particulièrement fier de ce dernier calcul. Séry avait dû l'écouter en ressasser tous les avantages. Édain, Terrilleville sera forcé d'admettre que mes navires de patrouille ont découragé les pirates. Les esclaves que nous attraperons en seront la preuve. Et de deux, la ville sera impressionnée par la puissance de mes alliés et ainsi moins encline à s'opposer à ma volonté. Et de trois, nous renflouerons le trésor et rentrerons dans les frais de cette petite expédition. Et de quatre, elle fera de moi une légende vivante. Quel gouverneur s'est ainsi risqué à aller de l'avant, à prendre les choses en main et à redresser la situation? Quel gouverneur a montré pareille audace? Séry ne savait que redouter le plus. Que les Chalcédiens emmènent Kosgo en Chalcède, le retiennent en otage et en fassent un gouverneur fantoche, ou bien que la noblesse de Jamélia profite de l'absence du gouverneur pour s'emparer de la moindre miette de pouvoir. Ceci était probablement autant à craindre que cela, concluait-elle amèrement. Parfois, comme ce soir, elle se demandait si elle verrait jamais Terrilleville. Ils étaient complètement à la merci des mercenaires chalcédiens qui commandaient les navires. Rien ne les empêchait d'emmener Kosgo directement en Chalcède. Il était tout à leur avantage de le débarquer d'abord à Terrilleville. Elle espérait qu'il le comprendrait. Le cas échéant, elle se jurait bien de prendre la fuite, d'une façon ou d'une autre. Seuls deux des vieux conseillers du gouverneur avaient tenté de le dissuader d'entreprendre le voyage. Les autres avaient opiné du bonnet avec affabilité, convenant qu'un gouverneur souverain en voyage constituait un cas unique, tout en l'encourageant à faire pour le mieux. Ni les uns ni les autres n'avaient proposé de l'accompagner. Il l'avait couvert de cadeaux pour la route et l'avait pratiquement poussé à bord. Ceux qui l'avaient désigné pour faire partie de sa suite s'étaient inclinés de mauvaise grâce. Pourtant, Kosgo avait été incapable de discerner les menaces d'un complot visant à se débarrasser de lui. Récemment, elle avait osé lui faire part de ses inquiétudes. D'abord, il s'était moqué d'elle, puis il s'était fâché. « Tu joues avec mes peurs. Tu sais très bien que mes nerfs me tracassent. Tu cherches à m'inquiéter, à me gâter la santé et la digestion avec tes sottises. Tais-toi. Va dans ta cabine et reste-y jusqu'à ce que je t'appelle. » Les joues brûlantes, elle se rappela qu'elle avait été forcée d'obéir. Deux matelots chalcédiens hilares l'avaient escortée. Ils ne l'avaient pas touchée, mais avaient, sans se gêner, détaillé son corps en gestes et en paroles. Une fois dans sa cabine, elle avait poussé le loquet peu résistant et bloqué la porte avec son coffre à vêtements. Kosgo avait laissé un jour entier s'écouler avant de la convoquer. Alors, il lui avait demandé si elle avait compris la leçon. Point sur les hanches, il avait attendu sa réponse avec un sourire narquois. Il n'aurait jamais osé lui parler sur ce ton à Jamélia. Elle avait baissé les yeux et marmonné un acquiescement. Ce qui lui avait paru le parti le plus sage, mais en son fort intérieur, elle bouillait de rage. Oui, Elle avait compris la leçon. Elle avait compris qu'il avait laissé derrière lui ses manières civilisées. Naguère, il ne faisait que jouer au dépravé. Désormais, il optait pour la déchéance. Elle avait décidé de reprendre sa liberté dès que possible. Elle ne devait rien à ce porc. Seule sa fidélité à l'institution troublait sa conscience. Elle avait fait taire ses scrupules en se disant qu'une femme isolée ne pouvait faire grand-chose pour en freiner le déclin. Depuis lors, le gouverneur la guettait comme un chat. Il attendait qu'elle le provoque. Elle avait eu la prudence de s'en abstenir, mais elle ne se montrait pas autrement servile. Elle serrait les dents, se comportait avec déférence et courtoisie, mais s'appliquait à l'éviter le plus possible. Ce soir, quand il l'avait convoquée, elle avait craint un affrontement. Elle avait béni la jalousie féroce de Kiki. Dès l'instant où ses rilles avaient été admises dans la chambre du gouverneur, l'autre compagne avait tout fait pour distraire Kosgo. Elle y avait parfaitement réussi. Il était inconscient. Keki était sans vergogne. Elle était devenue compagne grâce à sa connaissance de la langue et des mœurs chalcédiennes. Il était manifeste aux yeux de ses rilles qu'elle avait aussi adopté la culture du pays. En Chalcède, une femme ne pouvait exercer un quelconque pouvoir qu'à travers l'homme qu'elle était parvenue à séduire. Ce soir, Keki avait démontré qu'elle était prête à tout pour capter l'attention de Kosgo. Dommage, pensa Seri, qu'elle ait choisi le plus sûr moyen de le lasser. Elle serait bientôt congédiée. Seri espérait seulement que les flatteries de Keki le distrairaient jusqu'à l'arrivée à Terrilville. Elle était toujours en train de les contempler quand le gouverneur ouvrit un œil rougi par la drogue. Elle ne détourna pas le regard. Elle doutait qu'il s'aperçoive même de sa présence. Elle se trompait.
« Viens ici !»
ordonna-t-il. Elle foula l'épais tapis en contournant les vêtements et les plats jetés çà et là. Elle se tint à une coudée du divan.
« Vous m'avez fait appeler pour consultation, Magnadon ?»
lui demanda-t-elle cérémonieusement.
« Viens ici !»
répéta-t-il, irrité. Il tapota du doigt une place à côté de lui. Elle ne put se résoudre à faire ses derniers pas. Sa fierté l'en empêchait.
« Pourquoi ? »
interrogea-t-elle.
« Parce que je suis le gouverneur et que je l'ordonne !»
cracha-t-il, fou furieux.
« Tu n'as pas besoin d'autre raison !»
Il s'assit brusquement, écarta sans ménagement Keki qui poussa un gémissement lamentable et roula sur elle-même.
« Je ne suis pas une servante, » fit remarquer Seri. « Je suis une compagne de cœur. »
Elle se redressa et récita.
« Afin que les complaisances des femmes ne lui tournent pas la tête, afin que sa vanité ne soit pas flattée par ceux qui ne cherchent que leur propre intérêt, qu'il se choisisse des compagnes qui siégeront à ses côtés. » Qu'elles ne soient pas au-dessus de lui, qu'elles ne soient pas en dessous, mais qu'elles expriment ouvertement leurs paroles de sagesse, qu'elles conseillent le gouverneur dans leur domaine de compétence, qu'il n'ait aucune favorite, qu'il ne choisisse pas les compagnes pour leur beauté ni pour leur caractère aimable, que la compagne ne le loue pas, qu'elle ne s'en remette pas au jugement du gouverneur, qu'elle ne craigne pas d'être en désaccord avec lui. Toute chose qui pourrait compromettre l'honnêteté de ses conseils. Qu'elle...
Qu'elle la ferme !
Cria Kosgo. Et il rugit de rire à son propre trait d'esprit. Seri se tut. Mais ce n'était pas parce qu'il l'avait ordonné. Elle ne bougea pas. Il la dévisagea un moment sans parler. Une étrange lueur d'amusement s'alluma dans ses yeux.
« Tu es bien imprudente. Tu es tellement imbue de toi-même, tellement certaine qu'il te suffit de quelques mots pour te protéger. « Compagne de mon cœur !»
ajouta-t-il d'un ton railleur.
« Quel titre pour une femme qui a peur d'être femme !»
Il s'adossa à Keki comme à un coussin.
« Je pourrais te guérir de ta peur. » « Je pourrais te livrer au matelot. Y as-tu jamais songé ? Le capitaine est chalcédien. Il trouverait tout naturel que je rejette une femme qui m'a déplu. » Il marqua une pause. Peut-être te prendra-t-il en premier avant de te refiler aux autres. Seri sentit sa bouche s'assécher, sa langue se coller à son palais. Il pouvait le faire. Il en était devenu capable. Des mois se passeraient avant qu'il revienne à Jamelia. Qui lui demanderait des comptes? Qui donc l'interrogerait sur ce qu'elle était devenue? Personne. Aucun noble à bord ne s'opposerait à lui. S'ils avaient eu cette force de volonté, ils ne seraient pas avec lui aujourd'hui. Certains penseraient même qu'elle l'avait bien cherché. Elle n'avait pas le choix. Si elle lui cédait, il s'acharnerait à la vilir. Si elle montrait qu'elle le craignait, il continuerait à la menacer. Elle le comprit soudain avec clarté. Sa seule chance, c'était de le défier.
« Allez-y, »
dit-elle froidement. Elle se redressa davantage et croisa les bras sur la poitrine. Elle sentait son cœur battre à grands coups. Il pouvait le faire. Peut-être. Dans ce cas, elle n'y survivrait pas. Les matelots étaient nombreux et brutaux. Elle avait déjà aperçu quelques servantes au visage meurtri et à la démarche incertaine. Elle n'avait rien entendu à ce sujet, mais elle n'avait pas besoin de rumeurs pour concevoir des soupçons. Les Chalcédiens considéraient les femmes à peine mieux que du bétail. Elle pria le ciel qu'il recule.
« C'est ce que je vais faire !»
Il bondit sur ses pieds et fit deux pas chancelants en direction de la porte. Elle sentit ses jambes se dérober sous elle. Elle serra les mâchoires pour empêcher ses lèvres de trembler. Elle avait risqué son coup et avait perdu.
« Ça, aide-moi » supplia-t-elle.
Elle eut envie de gémir d'effroi. Elle craignit de s'évanouir. Elle s'y là, cherchant à chasser les ombres qui lui brouillaient la vue. C'était une manœuvre d'intimidation. Il allait s'arrêter. Il n'oserait pas aller jusqu'au bout. Le gouverneur fit une halte. Il vacillait, mais était-ce hésitation ou manque d'équilibre, elle n'aurait su le dire.
« Tu es bien sûr que c'est ce que tu veux ?»
Les mots recelaient une raillerie grillarde. Il pencha la tête vers elle.
« Tu préfères passer entre leurs mains plutôt que de chercher à me plaire? Je te laisse une minute pour décider. »
Elle fut saisie de vertige et de nausée. C'était bien la plus grande cruauté que de lui offrir cette dernière chance. Elle sentit ses forces l'abandonner. Elle eut envie de se jeter à genoux et de l'implorer. Seule la certitude qu'il ignorait la miséricorde la retint et la garda droite. Elle déglutit. Elle ne pouvait répondre. Elle s'obstina dans son silence en espérant qu'il l'interpréterait comme un refus.
« Très bien. N'oublie pas, Seri, c'est toi qui l'auras voulu. Tu aurais pu me choisir, moi. »
Il ouvrit la porte où un matelot se tenait en faction, comme toujours. Seri devinait qu'il était geôlier autant que sentinelle. Kosgo s'appuya au chambranle et tapota l'homme affectueusement sur l'épaule.
« Un message pour ton capitaine, mon gars. Dis-lui que je lui offre l'une de mes femmes, celle aux yeux verts. »
Il pivota en vacillant pour la lorgner.
« Préviens-le qu'elle a mauvais caractère et qu'elle n'est pas consentante. Mais c'est tout de même un bon coup. »
Il la détailla des pieds à la tête. Un sourire cruel se dessina sur ses lèvres.
« Qu'il envoie un homme la chercher. »